d'emploi. Mode d'emploi.
Vous êtes bien dans l'émission des chômeurs sur Fréquence par la pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, une émission spéciale texte philosophique, politique et chanson, parce que vos animateurs préférés sont tous partis en famille, bien que vous ayez quand même entendu leur voix, puisque cette émission n'est pas en direct. J'avais envie, moi, Gilles, votre serviteur, de marquer par un clin d'œil au monde ouvrier, au précaire, et vous faire partager mes goûts de chanson. Pourquoi ce thème ? Parce que je souhaite faire une dédicace particulière à ce monde des sans-grades. Je dédie aussi cette émission à mes deux grands-pères qui étaient ouvriers dans le bâtiment, l'un peintre, l'autre couvreur, l'un communiste, l'autre anard. Je dédie cette émission à leur mémoire. Dans ces temps de vaches maigres, de disette sur fond de crise, je vous propose une première chanson, « Les temps difficiles » de Léo Ferré.
Mon machin, c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche des nouveaux francs, je mets des virgules aux ortolans. Les temps sont difficiles. Cet écrivain n'a pas de client, il vit seul avec son talent. Mais faut bouffer et faut ce qu'il faut, même si l'on bouffe au Figaro. Les temps sont difficiles. Walidé ou Dalida, y a pas de raison qu'on en reste là. Fous donc bébé dans ta chanson, ça fera chanter tous les couillons. Les temps sont difficiles. Si d'Aznavour j'avais la voix, je pourrais me voir au cinéma. Mais la petite vague m'a laissé là, moi qui me voyais déjà. Les temps sont difficiles. Berlin travaille de la latitude, les deux caca bossent sans filet. Ils ont paumé le nord et le sud, y a intérêt à les retrouver. Les temps sont difficiles. En Indochine c'est bien fini, en Indochine ça refleurit. Quand l'Indochine c'est terminé, où c'est-il qu'on pourrait stoyer? Les temps sont difficiles. On n'a pas les mêmes idées, on se les file, c'est régulier. File-moi ta part, mon petit Youssef, sinon je te branche sur l'EDF. Les temps sont difficiles. Réponds, dis-moi, où est ton pote? Sinon tu vas être chatouillé, dis-moi. Réponds, lâche ta camelote. Quand on questionne, il n'y a qu'à causer. Les temps sont difficiles. La mer, c'est plus qu'une aquarelle. Dans le ciel, il y a des caravelles. Les productions BP 2000 ne marchent que sur crocodile. Les temps sont difficiles. À Lyon, la soie a débordé. Le Rhône s'est foutu en Jersey. C'est comme l'amour quand ça se débine. T'y fous de la soie, il te rend du spleen. Les temps sont difficiles. Avant la guerre, pour être putain, fallait une carte, un bout de terrain, des amis chez la mère Poulasse, un petit copain pour la paillasse. Les temps étaient faciles. Maintenant c'est fini les conneries, faut faire son lit à France jeudi, tâter du Vadim à la une en attendant de montrer sa lune. Les temps sont difficiles. Van Gogh, là, de peindre sa chaise, s'était ouvert une portugaise. Gauguin crevait à Tahiti, dans la mistoufle et dans l'ennui. Les temps étaient bizarres. Van Gogh, maintenant, vaut des millions. Gauguin se vend mieux que du cochon. Rien n'a changé, on tourne en rond. Et dure, dure ma chanson. Le temps que je me marre.
Que peut-il ? Tout. Qu'a-t-il fait ? Rien. Avec cette pleine puissance, en 8 mois, un homme de génie eut changé la face de la France, de l'Europe peut-être. Seulement voilà, il a pris la France et n'en sait rien faire. Dieu sait pourtant que le président se démène. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète. Il cherche à donner le change sur sa nullité. C'est le mouvement perpétuel, mais hélas, cette roue tourne à vide. L'homme qui, après sa prise du pouvoir, a épousé une princesse étrangère, est un carriériste avantageux. Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour lui l'argent, l'agio, la banque, la bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, il faut qu'il les satisfasse. Quand on mesure l'homme et qu'on le trouve si petit, et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on le trouve énorme, il est impossible que l'esprit n'éprouve pas quelques surprises. On y ajoutera le cynisme, car la France, il la foule aux pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l'insulte et la bafoue. Triste spectacle que celui du galop, à travers l'absurde, d'un homme médiocre échappé. C'était Victor Hugo dans Napoléon le Petit. Vous pensiez peut-être à quelqu'un d'autre.
Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu. Hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiter ce que leur Dieu avait maudit. Moi qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu, des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste. De Paul Lafargue, Le droit à la paresse.
Masse d'ouvriers dans les usines, répétant sans cesse le même geste, esclaves du rendement et du profit, mourant fatigués par la vie dans leur 61e année, sans pouvoir profiter de leur retraite si basse. Je dédie cette chanson à mon oncle, qui était plombier, et qui, comme dans la chanson, mettait son bleu pour aller travailler. Son bleu de Renault.
Doucement, pour pas réveiller maman, il a acheté l'huma sur le canapé près du chat, s'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux, qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? Sa gamelle, de sa capette, c'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ses années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? De ses bras de travailleur, c'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi il repense aujourd'hui au petit, v'là 10 ans qu'il est parti? Salut, pauvre cave, tu seras toujours un esclave. Eh ben tu me vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. à faire de son bleu, son drapeau rouge, de son Lénine. C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Maman, peut-être lui dire toujours pas de lettres. Il reviendra, il pense à nous, t'en fais pas là-bas, dans la guérilla au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu. Chanson bleue, mon enfant a compris mieux que moi le bonheur de faire péter tout ça.
L'homme est organisé pour la cité comme la fourmi pour la fourmilière, avec cette différence pourtant que la fourmi possède des moyens tout faits d'atteindre le but, tandis que nous apportons ce qu'il faut pour les réinventer et par conséquent pour en varier la forme. Chaque mot de notre langue a donc beau être conventionnel, le langage n'est pas une convention. Il est aussi naturel à l'homme de parler que de marcher. Or, quelle est la fonction primitive du langage ? C'est d'établir une communication en vue d'une coopération. Le langage transmet des ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier cas, c'est l'appel à l'action immédiate. Dans le second, c'est le signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés, en vue de l'action future. Mais dans un cas comme dans l'autre, la fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses que le langage décrit ont été découpés dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont des appels de la chose à une activité humaine. De la position des problèmes, philosophie et conversation. Bergson.
Pour finir, il nous faut abolir l'activité laborieuse, de loin la plus répandue, celle dont les horaires sont les plus interminables et qui regroupe les tâches parmi les plus ennuyeuses et les moins bien rémunérées. Je veux parler du travail domestique et éducatif qu'effectuent les femmes au foyer. En abolissant le travail salarié et en réalisant le plein chômage, nous sapons la division sexuelle du travail. La famille nucléaire, telle que nous la connaissons, provient d'une adaptation inévitable à la division du travail qu'impose l'esclavage salarié moderne. Qu'on le veuille ou non, telles que sont les choses depuis un ou deux siècles, il a longtemps été plus rationnel sur le plan économique que ce soit l'homme qui gagne le pain du ménage, pendant que la femme se tape le boulot de merde, afin que son compagnon y trouve un doux refuge, à l'abri de ce monde sans cœur. Et que les enfants se rendent dans des camps de concentration nommés « écoles », d'abord pour que maman ne les ait pas sur le dos pendant qu'elle besogne, ensuite pour mieux contrôler leurs faits et gestes, et incidemment pour qu'ils acquièrent les habitudes de l'obéissance et de la ponctualité si nécessaires aux travailleurs. Pour se débarrasser définitivement du patriarcat, il faut en finir avec la famille nucléaire, lieu de ce travail de l'ombre, non payé, lequel rend impossible le système de production fondé sur le travail, qui par lui-même a rendu nécessaire la forme moderne et adouci le patriarcat. Le corollaire de cette stratégie antinucléaire est l'abolition de l'enfance et la fermeture des écoles. Il y a plus d'élèves que de travailleurs à plein temps dans ce pays. Nous avons besoin des enfants comme professeurs et non comme élèves. Leur contribution à la révolution ludique sera immense parce qu'ils sont mieux exercés dans l'art de jouer que ne le sont les adultes. Les adultes et les enfants ne sont pas identiques, mais ils deviendront égaux grâce à l'indépendance. Seul le jeu peut combler le fossé des générations.
Ce texte est extrait de « Travaillez-moi jamais » de Bob Black en collection Esprit Frappeur.
Yeah, ils y tiennent à leur boulot, à leur usine. C'est toute leur vie. Et ils désespèrent quand ces usines ferment. Mais que vont-ils devenir ? Alors ils se révoltent, mais les décideurs décident, parce qu'ils ont quelque chose et qu'ils sont quelques-uns à avoir de l'argent, le pouvoir, l'armée, pour pouvoir réprimander. Je vous propose donc une chanson de Pierre Bachelet, « Au nord, il y avait les corons ».
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Au nord, la terre, le ciel, les hommes. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée de lessiveuse. Et j'avais le terril à défaut de montagne, dont je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. À la mairie, le jour de la kermesse, et le photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'est
voilà le vrai monde du travail, un monde de bévues bureaucratiques, de harcèlement sexuel et de discrimination, peuplé de patrons obtus, exploitant et brimant leurs subordonnés, lesquels, selon n'importe quel critère technique et rationnel, devraient être aux commandes et prendre des décisions. Mais dans la réalité, le capitalisme soumet encore les impératifs de productivité et de rentabilité aux exigences du contrôle organisé. La déchéance que connaît au boulot l'écrasante majorité des travailleurs naît d'une variété infinie d'humiliations qu'on peut désigner globalement du nom de discipline. Des gens comme Foucault ont analysé de manière complexe ce phénomène alors qu'il est fort simple. La discipline est constituée de la totalité des contrôles coercitifs qui s'exercent sur le lieu de travail. Surveillance, exécution machinale des tâches, rythme de travail imposé, quota de production, pointeuse, etc. La discipline est ce que le magasin, l'usine et le bureau ont en commun avec la prison, l'école et l'hôpital psychiatrique. Ce texte est extrait de « Travailler, moi jamais » de Bob Black et traduit de l'anglais par Julius Vandal.
Ma foi, vivons, faisons des affaires. Tripotons dans les actions de zinc ou de chemin de fer. Gagnons de l'argent. C'est ignoble, mais c'est excellent. Un scrupule de moins, un louis de plus. Vendons toute notre âme à ce taux. On court, on se rue, on fait antichambre, on boit toute honte. Et si l'on peut avoir une concession de chemin en France ou de terrain en Afrique, on demande une place. C'est à qui fera ce trafic de soi-même le plus cyniquement. Et parmi ces êtres, il y a des jeunes gens qui ont l'œil pur et limpide et toute l'apparence de l'âge généreux. Et il y a des vieillards qui n'ont qu'une peur. C'est que la place sollicitée ne leur arrive pas à temps et qu'ils ne parviennent pas à se déshonorer avant de mourir. L'un se donnerait pour une préfecture, l'autre pour une recette, l'autre pour un consulat, l'autre veut un bureau de tabac, l'autre veut une ambassade. Tous veulent de l'argent. Ceci moins, ceci plus, car c'est au traitement qu'on songe, non à la fonction. Chacun tend la main, tous s'offrent. Un de ces jours, on établira un essayeur de conscience à la monnaie. Les mots indépendance, affranchissement, progrès, orgueil populaire, fierté nationale, grandeur française, on ne peut plus les prononcer en France. Chut, ces mots-là font trop de bruit. Marchons sur la pointe du pied et parlons bas. Nous sommes dans la chambre d'un malade. Et la liberté de la presse, qu'en dire? N'est-il pas dérisoire seulement de prononcer ce mot? Cette presse libre, honneur de l'esprit français, clarté de tous les points à la fois sur toutes les questions, éveil perpétuel de la nation, où est-elle? Qu'est-ce que c'est que cet homme? C'est le chef, c'est le maître, tout le monde lui obéit. Ah, tout le monde le respecte alors? Non, tout le monde le méprise. Oh, situation, cet homme de ruse, cet homme de force, cet homme de mensonge, cet homme de succès, cet homme de malheur. Oui, quelquefois, aux paroles superbes qui lui échappent, à le voir adresser d'incroyables appels à la postérité, à cette postérité qui frémira d'horreur et de colère devant lui, à l'entendre parler avec aplomb de sa légitimité et de sa mission, on serait presque tenté de croire qu'il en est venu à se prendre lui-même en haute considération et que la tête lui a tourné au point qu'il ne s'aperçoit plus de ce qu'il est ni de ce qu'il fait. Il croit à l'adhésion des prolétaires, il croit à la bonne volonté des rois, il croit à la fête des aigles, il croit aux harangues du Conseil d'État, il croit aux bénédictions. Ce texte était de Victor Hugo.
Et puis, de toute façon, les riches auront de la nourriture et les pauvres de l'appétit. En leur donnant la foi, l'ouvrier ne se révolte plus. Il est dans la dévotion, voire dans l'autoflagellation, la culpabilité. Et le patron fera en sorte que l'ouvrier doute toujours un peu de ses compétences, afin d'éviter qu'il demande un jour de l'augmentation. Mais a-t-il le temps de prier, votre Seigneur? Voyez ces cadences infernales. Vous en saurez plus après le lavage de cerveau, télé, boulot, dodo. Du pain et des jeux pour le peuple, et de belles augmentations de 300% pour ceux qui pensent, et qui signent sans faire de croix, leur beau parafleur. Une chanson pour illustrer à merveille la chose sacrée, Monsieur Toublan de Léo Ferré.
Monsieur Toublan, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Toublan, la charité, c'est très gentil, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Toublan, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Toublan, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Toublanc, si vous partez un beau matin, les pieds devant, pour vos châteaux en paradis, Monsieur Toublanc, le paradis, c'est peut-être joli, priez pour moi. Moi, j'ai pas le temps, car je vivrai toujours à Aubervilliers, avec deux bras noués autour de ma misère. On n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur Toublanc, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, Monsieur Toublanc, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs, que vous pouvez écouter tous les vendredis soirs en direct de 20h30 à 21h30 et en matinale les mercredis de 7h à 8h. Vous pouvez nous entendre également en direct sur rfpp.net ou en fichier à télécharger sur notre site www.modeaupluriel-d-emploi.net.
Il est inconcevable à quel point l'homme est naturellement paresseux. On dirait qu'il ne vit que pour dormir, végéter, rester immobile. À peine peut-il se résoudre à se donner des mouvements nécessaires pour s'empêcher de mourir de faim. Rien ne maintient tant les sauvages dans l'amour de leur état que cette délicieuse indolence. Les passions qui rendent l'homme inquiet, prévoyant, actif, ne naissent que dans la société. Ne rien faire est la première et la plus forte passion de l'homme après celle de se conserver. Si l'on y regarde bien, l'on verrait que même parmi nous, c'est pour parvenir au repos que chacun travaille. C'est encore la paresse qui nous rend laborieux. Rousseau, Essai sur l'origine des langues.
Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à tous, à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent aujourd'hui à la vue du travail, on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût, de l'indépendance. Car il consomme une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, aux soucis, à l'amour et à la haine. Il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille dur en permanence croit davantage de sécurité, et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. Nietzsche, Aurore, livre 3e, aphorisme 173, les apologistes du travail.
Socialiste révolutionnaire ? C'était jadis un pléonasme, c'est maintenant un paradoxe. Léo Campion. Ah, l'aliénation au travail, il n'y a pas mieux pour vous faire oublier vos soucis. Travaillez plus pour gagner plus, et vous ne penserez même plus à vos problèmes de cœur, de budget. L'émancipation se trouve dans le travail, sorte de réalisation et résurrection sociale. Le travail est essentiel, primordial, nécessaire à votre construction psychologique et économique. Travail, famille, patrie, un vrai faux discours d'un sarkozisme efficace, ambitieux et réac. Pour illustrer ses propos, je vous propose d'entendre cette chanson de Rougotte, À le travail, quel malheur.
Comité réduit, foule immense, qui ce soir de votre présence me faites le don et l'amitié. Vous qui ne cédez votre oreille, et quelque argent de votre paye, que merci, vous m'avez gardé. Combien de sueurs, de souffrances, de rêves, de parcelles d'enfance, pour gagner ces quelques euros. Je voudrais par ces quelques rimes vous exprimer toute l'estime que j'ai pour vous, sombre héros. Attention, ça c'est le refrain et c'est notre slogan. Aïe, le travail, gros malheur. Cinq jours qui se suivent à la traîne pour à la fin de la semaine enfin se passer de réveil. Tout ça pour s'éveiller quand même, les poings serrés et le front blême à la même heure que la veille. Le samedi passe, on est libre, on réalise qu'on peut vivre, on fait durer tant que l'on peut. Et le dimanche, grâce matine, la liberté qui se termine et qui aura duré si peu. Aïe, le travail, gros malheur. Parlons des relations humaines, les forçats soudent à leur chaîne, prétendent-ils se côtoyer? Que faire pour conserver sa place? Au banc des esclaves, on remplace aussi vite qu'on a chassé. Allez collègues, allez camarades, que de jalousie, de brimade, vous aurez bien su vous causer. Et le contre-maître jubile, c'est autant de révolte qu'il n'aura pas besoin de mater. Aïe, le travail, grosse malheur. Qui ose dire, je l'écoute, que le travail est une route qui mène au bonheur, à la vie. Chaîne de montage qui met le doigt dans l'engrenage se retrouve happé sans un cri. Les 35 heures font les semaines, les mois puis les années s'enchaînent comme un train sans pause ni retour. Et puis lorsqu'on n'est plus rentable, on nous rejette sur le sable et au suivant chacun son tour. Aïe, le travail, grosse malheur. Mais les voilà les spécialistes, hommes de l'art, tête de liste, qui nous répètent leurs numéros. Ah ça, le travail, tu parles, ils connaissent, ils en causent à tous, et sans cesse à pleine page de journaux. Ils voudraient ancrer les pauvres, pas pour eux, la morale les sauve, mais pour nos millions de chômeurs. Ah mais les charges sont bien trop fortes pour faire son beurre, ce qui rapporte, c'est de placer l'argent du beurre. Aïe, le travail, grosse malheur. Entre deux jetons de présence, l'entrepreneur est dans la danse qui opine du gros bonnet. Le travail ça coûte si cher, il faut penser aux actionnaires qui font vivre nos sociétés. Alors à quoi bon que s'échinent les hommes puisque les machines offrent un rendement meilleur? Tant que le profit reste nôtre, que les pertes soient pour les autres, l'État paiera pour les chômeurs. Aïe, le travail, grosse malheur. Mais je sens bien que je m'égare, votre regard se désempare. Je vais tenter de résumer. Alors bon, je récapitule. Pendant que le travail capitule, le capital peut travailler. Très bien. Que tournent les machines, le si joli temps de la mine. C'est pas moi qui vais le pleurer. Le travail meurt, la belle affaire. Participons comme actionnaires à construire la société. Aïe, le travail, grosse malheur.
car les actions, cela s'acquiert pour être de la nouvelle ère, rentiers et non plus travailleurs. À l'écart des joutes boursières, comme des paysans sans terre devant la porte du Seigneur. Avant que tentation soit forte de simplement pousser la porte pour prendre sa part de labeur. Conclusion de notre analyse, distribuons les entreprises à ceux qu'elles ont rendus chômeurs. Aïe, le travail, grosse malheur. Conclusion de notre analyse, distribuons les entreprises à ceux qu'elles ont rendus chômeurs. Et moi, qui reste prolétaire, je vous dirai, entre deux verres, deux, trois actions. À votre bon cœur! À votre bon cœur, messieurs, dames, deux, trois actions pour manger, pour rester propre, pour rémunérer l'excellent guitariste qui m'accompagne, pour changer les cordes de ma guitare, deux, trois actions. Messieurs, dames, à votre bon cœur, n'importe quoi, même du Vivendi, c'est bon. L'opération pièce jaune à moi, deux, trois actions, messieurs, dames. Aïe, le travail, grosse malheur.
L'ouvrier s'appauvrit d'autant plus qu'il produit plus de richesses, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise. Plus le monde des choses augmente en valeur, plus le monde des hommes se dévalorise. L'un est en raison directe de l'autre. Le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même et produit l'ouvrier comme une marchandise, dans la mesure même où il produit des marchandises en général. Cela revient à dire que le produit du travail vient s'opposer au travail comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s'est fixé, matérialisé dans un objet. Il est la transformation du travail en objet, matérialisation du travail. La réalisation du travail est sa matérialisation. Dans les conditions de l'économie politique, cette réalisation du travail apparaît comme la déperdition de l'ouvrier, la matérialisation comme perte et servitude matérielle, l'appropriation comme aliénation, comme dépouillement. Toutes ces conséquences découlent d'un seul fait. L'ouvrier se trouve devant le produit de son travail dans le même rapport qu'avec un objet étranger. Cela posé, il est évident que plus l'ouvrier se dépense dans son travail, plus le monde étranger, le monde des objets qu'il crée en face, de lui devient puissant. Et que plus il s'appauvrit lui-même, plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. C'est exactement comme dans la religion. Plus l'homme place en Dieu, moins il conserve en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans l'objet, et voilà qu'elle ne lui appartient plus. Elle est à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est sans objet. Il n'est pas ce qu'est le produit de son travail. Manuscrit de 1844, Marx.
Les rentiers, ce mot anodin qui cache le fait de recevoir de l'argent d'autrui sans avoir travaillé, alors que celui qui le donne a sué pendant toute sa vie. Ce mot qu'on ignore tout le temps. Les rentiers sont révoltés, ils ont moins de rente. Car la crise est passée par là. Les travailleurs et les travailleuses rapportent moins. Alors on délocalise, on ferme l'usine d'un trait de plume, d'un simple chiffre, la rente. Les soucis des rentiers, ils n'en ont pas, pour les plus riches d'entre eux. Si, les derniers rentiers que je connaissais souhaitaient avoir pour leur anniversaire un zèbre. On a là cherché donc pour Madame Mademoiselle Paris Hinton un zèbre pour son 25e anniversaire. Chose futile, désagréable et joie et perverse, des petits plaisirs que procure une rente de plusieurs millions de dollars par an. Puis ensuite, d'autres rentiers souhaitèrent avoir les meilleurs téléphones, ceux bien sûr laqués d'or et faits de diamants de plusieurs dizaines de carats. Ces gens-là sont dans un autre monde, celui de la rente. Celui où un match de polo sur glace coûte près de 15 000 euros à la minute. Un monde dont on ne parle jamais. Un monde qui se traduit par 9,3%. Près de 170 milliards d'euros reversés au cours de ces dernières années entre ceux qui travaillent et ceux qui sont rentiers. Le travail est mort. Vive la rente.
Si tu ne participes pas à la lutte, tu participeras à la défaite. Bertolt Brecht. L'homme qui construit avec ses mains, qui crée, un jour se retrouve sans emploi. Licencié parce qu'il ne plaît plus, parce qu'il ne suit plus, parce qu'il est trop jeune ou trop vieux. En fait, aujourd'hui, on a une chance de travailler entre 30 et 40 ans, et encore. Le reste du temps, c'est l'enfer. Petit boulot en petit boulot. Bande de feignants ! Il ne rentrera pas ce soir, chanson d'Eddie Mitchell.
Sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué. C'est offert notre société. Vous êtes dépassé et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 oh. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Sa femme et son banquier, la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour travailleur émigré. Il se sent dépassé et du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 oh. Il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Chercher un travail pour le gain, c'est maintenant un souci commun à presque tous les habitants des pays de civilisation. Le travail leur est un moyen, il a cessé d'être un but en lui-même. Aussi sont-ils peu difficiles dans leur choix, pourvu qu'ils aient gros bénéfices. Mais il est des natures plus rares, qui aiment mieux périr que travailler sans joie. Des difficiles, des gens qui ne se contentent pas de peu, et qu'un gain abondant ne satisferait pas s'il ne voit pas le gain des gains dans le travail même. Les artistes et les contemplatifs de toute espèce font partie de cette rare catégorie humaine, mais aussi ces oisifs qui passent leur existence à chasser ou à voyager, à s'occuper des galants, commerces ou à courir des aventures. Ils cherchent tous le travail, et la peine dans la mesure où travail et peine peuvent être liés au plaisir, et s'il le faut, le plus dur travail, la pire peine. Mais sortis de là, ils sont d'une paresse décidée, même si cette paresse doit entraîner la ruine, le déshonneur, les dangers de mort ou de maladie. Ils craignent moins l'ennui qu'un travail sans plaisir. Il faut même qu'ils s'ennuient beaucoup plus pour que leur travail réussisse. Nietzsche, le gai savoir.
C'est toujours les oiseaux du faubourg que vous avez déjà entendu sur ces ondes. Il y a une chanson qu'avait chanté Brassens, on va peut-être voilà, il disait mourir pour des idées. Alors, je crois que mourir pour des idées c'est bien. C'est une grande chanson, très belle bien sûr, c'est une bonne chanson, mais quand on est mort, on peut plus lutter. Alors
en fait, la chanson correspond à une réponse de Brassens à des exigences, je dirais même à des demandes répétées du mouvement gauchiste de l'époque, à le faire intervenir sur la scène politique, ce qu'il a toujours refusé de faire.
Pour préciser les choses, on a repris la mélodie de Mourir pour des idées et Philippe a écrit quatre couplets d'une chanson qui s'appelle ensuite Vivre pour des idées et qui donc prend un peu le contre-pied de la position de Brassens.
Donc on va vous écouter.
Vivre pour des idées. Vivre pour des idées. L'idée est excellente, si bonne que partout on la voit combattue. Il n'est pas d'idée juste qui soit trop encombrante, sauf pour tous ceux qui veulent que les gens n'en aient plus. Tous les prêcheurs de paix et de non-violence veulent nous faire croire, car c'est leur intérêt, qu'on peut détruire un tank avec des baisers. Une vie à genoux est pire qu'une mort violente, est pire qu'une mort violente. Santiago du Chili, Budapest et la Chine ont largement montré en un triste refrain que quiconque veut changer un ordre qui réprime se retrouve en prison ou mort le lendemain. À moins de décider, et c'est chose évidente, que recevoir des coups justifie d'en donner. Pour sauver l'autre joue, il faut bien répliquer. Une vie à genoux est pire qu'une mort violente, est pire qu'une mort violente. Se battre, paraît-il, amène à la faillite. Mais face aux légionnaires, à quoi bon discuter? On n'arrête pas un flic avec des marguerites. Face aux coups de matraque, il faut bien matraquer. Et qu'on n'aille pas dire, idiotie désarmante, qu'un coup en vaut un autre, que c'est le même péché. Le bon droit est avec ceux qui sont opprimés. Une vie à genoux est pire qu'une mort violente, est pire qu'une mort violente. Si ça ne tenait qu'à nous, on n'aurait que des guitares et des fleurs, mais c'est sûr, ils vont les piétiner. La loi du capital, pour eux, n'est pas bizarre. Ils font de leur pouvoir sur l'inégalité. Que faire devant leurs flics, leur richesse insultante? Rien ne sert de ramper, il faut se relever. Vivre pour nos idées et donc se révolter. Une vie à genoux est pire qu'une mort violente, est pire qu'une mort violente. Et ceux qui ont chanté les louanges du maréchal, qui en des temps obscurs tendaient leurs bras bien haut, à qui l'on doit Auschwitz, Sobibor, Buchenwald, qui avait pour idole Adolphe et Benito. Qu'on meure pour les combattre n'est pas chose choquante, car elle est bien coupable la neutralité. De mes deux oncles, c'est Martin, mon préféré. Une vie à genoux est pire qu'une mort violente, est pire qu'une mort violente.
Pour expliquer ce que j'entends par gentilhomme, je dirais qu'on appelle ainsi tous ceux qui vivent sans rien faire, du produit de leur possession, et ne s'adonnent ni à l'agriculture, ni à aucun autre métier ou profession. De tels hommes sont dangereux, dans toute république et dans tout état. Discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel.
Et oui, cette émission se termine. Merci messieurs, dames de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Claude pour la technique et
Pierre, Christiane, Christophe et Odile qui m'ont prêté leur voix dans la préparation de cette émission.
C'était Gilles au micro pour l'émission Mode d'emploi et fréquence par pluriel. Gros bisous aux filles et gros soignement aux garçons. À la semaine prochaine. Salut.